C'est la fin du week-end, on est dimanche, il est 20h et vous êtes toujours sur Radio Campus Paris sur le 93.9 FM et en streaming. Tout de suite, c'est Museum Side, en avant pour un tour du côté des musées.
On commence avec le mot du conte de Lautréamont. Bon, comme la rencontre fortuite d'une machine à coudre et d'un parapluie sur une table de dissection.
Museum Side.
Vous avez tenté de faire quelque chose qui n'est en aucune façon un palais, en aucune façon un lieu de décor, et disons-le tout de suite, en aucune façon un musée.
Museum Side, c'est l'émission de critique d'art de Radio Campus Paris.
Vassili Kandinsky est exposé au troisième étage à côté de Malevitch, comme il se doit.
Ceci n'est pas un musée.
Ah, donc si je trouve Malevitch, pour Kandinsky, je brûle.
On parlera d'exposition d'art.
Ce qui donne un art à une société, dit André Gide, c'est le besoin qu'elle en a, et non une compréhension plus ou moins grande.
On va se balader dans Paris, de musée en musée, toujours en compagnie d'un invité. Ce soir, on part à l'espace culturel de la Fondation EDF à Paris, où je suis allée rencontrer David Bianic, le commissaire de l'exposition 1-2-3 Data, présentée jusqu'au 6 octobre 2018. En deuxième partie, nous parlerons de Monet. Ah, Monet! Pour l'exposition Nymphéa, l'abstraction américaine est le dernier Monet, actuellement au musée de l'Orangerie jusqu'au 20 août 2018. C'est la dernière émission de la saison en studio, puisque cette année, Radio Campus Paris fête ses 20 ans. On vous prépare un mois de juin plein de festivités qui sont toutes à retrouver sur le site internet de la radio, radiocampusparis.org, là où vous allez bien sûr écouter tous les mois notre podcast. Donc, notre dernier numéro se tiendra le dimanche 24 juin à 19h30 au 6B à Saint-Denis. Nous serons en direct avec deux autres émissions artistiques de l'antenne, En pleine forme et Fun Sugs. On vous attend donc à partir du début de l'après-midi, puisqu'il y aura aussi des ateliers de création sonore animés par l'association L'œil à l'écoute. Et si vous ne connaissez pas le 6B, c'est l'occasion aussi de découvrir ce site de création artistique foisonnant. Voilà pour les réjouissances du mois de juin. Bonsoir les filles.
Bonsoir.
Bonsoir.
Alors Marie-Hélène, tu es tout enjouée. Tu nous parles de quelle expo photo ce soir ?
Alors, je vous parle de l'expo sur Willy Ronis au pavillon carré de Baudouin dans le 20e arrondissement.
Super, salut Charlotte.
Salut Florence.
Louis-Julien, tu es derrière ta vitre pour la dernière fois de la saison et tu fais un rond de ta main. Et on commence l'émission par la chronique de Galadriel. Tu nous emmènes où ce soir ?
Alors, je profite de la visite au musée de l'Orangerie pour la fameuse exposition Monet et les expressionnistes américains. Pour interroger Jérôme, qui est adjoint technique d'accueil et de surveillance. Donc pour cette dernière chronique l'année, après régisseur d'exposition, manager de galerie et autres médiateurs culturels, j'ai rencontré quelqu'un qui fait encore plus partie du quotidien des expositions. Jérôme travaille, comme je le disais, au musée de l'Orangerie et je l'ai interrogé sur le vif en pleine activité dans la salle des Nymphéas de Monet. Donc vous entendrez beaucoup de bruit derrière, les bruits des visiteurs tout simplement, ce qui vous permettra d'avoir l'ambiance dans laquelle travaillent ces agents, une ambiance donc très fatigante pour ces salles particulièrement fréquentées. Écoutons ce que Jérôme a à nous dire sur les Nymphéas. Jérôme, bonjour, nous sommes au musée de l'Orangerie, dans la salle des Nymphéas de Monet, cette rotonde. Alors vous êtes agent d'accueil
C'est adjoint technique d'accueil et de surveillance, c'est exact.
D'accord, au musée de l'Orangerie.
Voilà, au musée de l'Orangerie. Ouais.
Et vous travaillez ici depuis combien de temps ?
Depuis 2009, donc ça fait donc 8 ans et demi. Ouais.
D'accord.
8 ans et demi.
Donc vous êtes souvent, vous côtoyez souvent Monet.
Oui, bah oui, une fois par semaine dans les salles des Nymphéas, parce qu'il y a deux salles. Oui. Et autrement, on travaille en sous-sol là pour la collection Paul Guillaume.
Oui, d'accord. Voilà. Et alors, comment vous voyez vous ces Nymphéas de Monet ?
Bah, c'est plus la même perception effectivement si on y est régulièrement, même parfois le mardi aussi, le jour de fermeture. Parce qu'il peut y avoir des entreprises extérieures. Donc, moi, je regarde les gens, c'est mon travail. Hein.
Ouais.
Donc, les œuvres, je vois différentes saisons. Je vois que ce n'est pas tout à fait les mêmes couleurs, hein, que ce soit en été ou s'il y a de la lumière ou pas.
Et ça, c'est intéressant. Vous pouvez voir l'évolution, effectivement, en fonction de l'année.
C'est ça, ouais. autrement, c'est sûr que bon, parfois je ne les regarde pas, pas réellement, forcément.
Ouais, forcément, voilà, au bout d'un moment, quand on y est, ça devient des collègues de travail.
Voilà, ouais.
Et est-ce que... Alors je vois que tout à l'heure vous avez répondu avec plaisir à des visiteurs qui se posaient des questions sur les œuvres. Ça vous arrive souvent quand
Oui, c'est toujours un peu les mêmes questions. Mais bien sûr, ouais, même parfois quand même des questions plus originales. Mais... Qui ne pas directement même l'ENAFIA, mais oui, c'est un peu surtout un certain nombre de questions effectivement sur l'œuvre, comment ça a été fait, de quelle période ça date, etc. quoi. Voilà, pour les photos aussi, savoir même les gens se plaignent même du bruit, on prend trop de photos.
C'est vrai que juste pour en étant là quelques minutes, on voit que les gens les photos interdit. À gogo.
Bah ça avait été interdit pendant plusieurs années les photographies et puis ça a été autorisé de nouveau.
Vous savez pourquoi ça a été réautorisé?
Oui, alors en fait c'est une histoire avec l'ancienne ministre de la Culture là. Et donc elle avait visité une exposition à Orsay et qui avait pris pendant le vernissage des photos. Et en fait ça avait créé polémique sur Internet. Et même si bon pour la ministre, on lui avait pas interdit les photos évidemment. Et depuis, ça fait polémique au sein du ministère. Ils ont réautorisé que c'était la même chose au musée d'Orsay. Autoriser de nouveau les photos et même pour l'exposition temporaire sauf des œuvres qui correspondent à la collection particulière, c'est autorisé, donc forcément les gens en prenant des photos font plus de bruit.
Les selfies, etc. Ça a dû changer ça depuis quelques années, j'imagine. C'est nouveau, non?
Normalement les selfies on n'autorise pas trop. Moi j'autorise pas trop. Normalement en théorie on n'a pas de consigne précise, mais parce que surtout quand il y a du monde, après quand il y a moins de monde, on laisse passer, mais normalement, faut pas trop autoriser les selfies, parce que peut y avoir des accidents éventuellement.
C'est ça.
Voilà.
Ouais. Vous connaissiez Monet avant de venir travailler ici?
Oui, parce que moi j'ai travaillé au musée d'Orsay.
D'accord.
Un ancien des musées il y a longtemps, donc je travaille.
D'accord.
Forcément. Voilà.
Effectivement.
Voilà.
Alors, l'épisode avec la ministre dont Jérôme nous parle, c'était Fleur Pellerin, au musée d'Orsay il y a quelques années. Je trouvais donc intéressant d'apporter ce témoignage. Les agents de surveillance qui sont ces personnes vraiment indispensables pour le bon fonctionnement des musées, la sécurité des œuvres et des visiteurs. Et elles ont beaucoup de mérite à travailler jour après jour. Et dans ces musées, sans eux, pas de visite possible. Donc, un travail avec, au quotidien, des chefs-d'œuvre en toile de fond.
Merci, Galadriel. Comment faire de l'art avec les données, ou data en anglais, foisonnantes qui circulent sur Internet par les réseaux sociaux ou avec celles que l'on obtient en étudiant par exemple la force des vents ou les inégalités salariales? Et surtout, comment les rendre agréables à lire et parfois éveiller les consciences sur des sujets aussi importants que l'environnement ou la démocratie? Ce sont les différentes questions que David Bianic s'est posé en construisant l'exposition 1-2-3 Data, présentée jusqu'au 6 octobre 2018 à l'espace culturel de la Fondation EDF. Je suis allée à sa rencontre pour essayer d'y voir plus clair.
Bonjour, David Bianic, vous êtes designer et maître de conférences à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous étudiez les manières de représenter et de visualiser de larges ensembles de données, ou data en anglais. Et vous êtes justement le commissaire d'une exposition actuellement à l'espace culturel de la Fondation EDF qui s'appelle 1-2-3 Data. Alors, qu'est-ce que c'est en fait toutes ces data dont vous parlez? Qu'est-ce qu'elles regroupent et d'où elles proviennent?
Alors, les données sont toutes très différentes selon le travail exposé ici, enfin selon les travaux en tout cas qui sont exposés. Vous avez donc des œuvres parfois, des œuvres de données, donc vous avez des artistes qui ont fait le choix de partir de différents corpus de données, parfois ce sont des données personnelles, des données d'entreprise, des open data qui concernent l'environnement, le trafic routier, tout un tas de sujets très variés. Et ce qu'on voulait essayer de montrer, c'est la diversité des pratiques créatives avec les données. Certains artistes vont avoir à cœur de rendre visible, tangible, de donner forme à ces données, c'est-à-dire de leur conférer une nouvelle matérialité pour qu'elles existent, on les saisisse d'une autre manière, et à travers ça, exposer leurs qualités d'une certaine façon. Et puis d'autres artistes et aussi designers vont s'attacher à essayer, à partir des données, de nous montrer le monde, ou nous-mêmes parfois, c'est-à-dire la manière dont on vit, dont on traverse le monde et dont on l'habite d'une certaine façon, à travers la pluralité de ces données. Donc les pratiques sont toutes très différentes, et les données sont aussi très variées selon les projets.
Et est-ce que c'est un challenge de donner, de faire une exposition sur quelque chose d'immatériel ?
Oui, c'est vrai que le sujet n'est pas facile au départ, puisque on ne cesse d'entendre les problématiques de données, le fait que ces masses de données, ces ressources, dont on a du mal à se représenter vraiment ce qu'elles sont, sont un problème pour nous, un problème technique, un problème de gestion, de stockage, etc. Et l'objectif pour nous, effectivement, c'était d'arriver à montrer au public qu'elles ont des qualités plastiques, des qualités formelles, qu'elles sont dotées évidemment d'utilité intrinsèque, mais qu'il s'agit de révéler, de donner à voir, de donner à comprendre. Donc oui, le pari, c'est d'arriver à donner forme à quelque chose qui, a priori, n'en a pas vraiment pour nous, quoi.
Et du coup, comment vous avez organisé ? Il me semble qu'il y a 4 temps dans l'exposition.
Alors oui, on a en tout cas 3 axes qu'on a essayé de construire, plus un dernier qu'on a appelé Pop-up Doc, qui est en réalité une sorte de partie un peu terminale de l'exposition, qui est un centre de documentation, une sorte de centre de ressources, un peu attelé à l'exposition. Sinon, on a donc 3 axes qu'on a essayé de marquer, qui sont finalement pas 3 espaces étanches, mais plutôt très poreux, et qui fixent plutôt 3 grandes motivations des créateurs avec les données aujourd'hui, designers et artistes. Le premier va concerner plutôt le fait, on l'appelle exhibitory design, c'est-à-dire le fait d'aller chercher à rendre visibles ou tangibles les données, c'est-à-dire finalement leur donner forme plastique, forme graphique. C'est un travail plutôt qui se, non pas qui se désintéresse du sens des données, mais qui utilise la donnée comme, là pour le coup, comme matériau, comme glaise, comme pigment, on pourrait aussi dire, pour finalement générer des formes, produire des formes et parfois activer des dispositifs. Le deuxième temps, qu'on a appelé explanatory design, consiste plutôt à essayer, à travers les données, de nous faire comprendre un certain nombre de faits, phénomènes et réalités du monde. Donc la donnée devient un élément d'appui de la connaissance, finalement, et le travail du design est justement d'arriver à extraire cette connaissance des données. Et puis le troisième, qu'on a appelé exploratory design, est plutôt un temps où l'utilisateur, le visiteur plutôt ici, est amené à explorer par lui-même les chemins de la connaissance. Les chemins ne sont pas forcément tracés par avance, c'est à chacun d'aller rentrer dans ces nébuleuses et à essayer de tisser des liens, de créer du lien pour comprendre, là encore, certaines réalités du monde.
Alors, au centre de la première salle, il y a une vague rouge qui bouge et qui est en train de bouger actuellement.
Oui, absolument.
Qu'est-ce qu'elle représente, cette vague ?
Alors, c'est un travail de David Bowen, qui est un artiste qui a fait le choix de se saisir de données qui sont collectées par une sonde qui est perdue dans le Pacifique. C'est une sonde qui voyage dans le Pacifique, mais qui a la particularité d'être d'émettre en temps réel tout un tas de données sur le mouvement d'eau, réfraction d'eau, etc., en surface, mais qui a perdu son signal GPS. Donc, on ne sait pas où elle se trouve, cette sonde. Elle est perdue, elle voyage dans le grand Pacifique. Et ce que l'artiste a choisi de faire, c'est donc de récupérer ces données et de les instancier dans une résille que vous avez là, face à vous, et qui en fait reproduit les mouvements d'eau en temps réel. Donc quelque part, elle donne figure et réalité à quelque chose qui n'a plus d'ancrage géographique dans le Pacifique, qui est présent, mais en tout cas invisible pour nous.
Alors vous avez choisi, donc, dans cette première partie, comme vous l'avez dit à l'instant, de jouer sur l'immersion dans les données, notamment dans l'installation Data Strings.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus de cette installation ?
Oui, bien sûr. C'est un travail d'un collectif espagnol, Domestic Data Streamers, qui ont comme habitude dans leurs projets, pas dans tous leurs projets, mais dans beaucoup de leurs projets, de faire participer les publics, c'est-à-dire de faire en sorte que la collection de données, finalement, se fasse in situ et que la traduction, la représentation, la mise en figure de ces données se fasse également in situ et avec les publics. Donc là, ce que vous avez là, c'est finalement une instance parmi d'autres innombrables qu'ils ont réalisées dans d'autres cadres, dans d'autres musées, dans d'autres circonstances, où le public est invité à répondre à partir d'un fil qu'il va tisser sur la surface, à répondre à différentes questions, donc des sujets divers et variés. Là, le sujet proposé sur l'exposition, c'est de se projeter sur 2049 en imaginant ce qui nous semblerait un avenir radieux positif, en tout cas ce que l'on craint, ce que l'on espère, ce que l'on souhaite pour l'avenir. Et à travers les questions qui sont posées, finalement, le visiteur va se saisir d'un fil. Il va tisser ce fil aux différents endroits qu'il veut déposer réponse. Et le final de tout ça, c'est qu'on obtient dans la collection des fils qui sont tissés une traduction graphique qui nous fait voir finalement un peu de l'opinion publique, un peu du sentiment général que l'on peut avoir sur cette question posée. Ils l'ont fait à Barcelone sur des sujets qui concernaient, dans des campus universitaires justement, le choix des filières des étudiants entre art, ingénierie, sciences, histoire, etc. Et donc les étudiants passaient à la fois rencontrer les filières, les enseignants, savoir un petit peu ce qu'ils allaient faire. En même temps, ils répondaient à ce questionnaire et en temps réel, on voyait quelque part l'activation des choix, en tout cas des étudiants se faire. Donc ce travail est intéressant et surtout, non seulement les choses se font in situ, mais en plus, il facilite l'implication des publics. Il y a une espèce de... On est davantage prompt, quelque part, à répondre, à s'engager sur certaines questions, alors qu'a priori, on n'est pas forcément versé à le faire dans le quotidien.
Et puis là, finalement, il reste plus de fils jaunes, donc ça veut dire que les gens sont plutôt optimistes.
Exactement. Déjà, la quantité, exactement. La bobine, avant même de regarder le graphique, la bobine et la quantité de fils disponibles nous montrent déjà un indice sur le sens des réponses qui sont adressées. Donc tout ça est intéressant à analyser, et c'est surtout... aussi une façon de dire on peut fonctionner sur des modes low-tech et quelque part faire énormément de choses pour se saisir en tout cas de la valeur des données au quotidien. Toutes ces choses déposées sont autant de données que l'on construit ensemble sur cette représentation.
Est-ce que l'esthétique de cette visualisation des données aide à se les représenter? Parce qu'il y a beaucoup d'œuvres esthétiques ici, je pense au vent par exemple, c'est des données sur le vent, je crois, au Canada.
Oui. Non, c'est à Istanbul. Ce sont les vents d'Istanbul. Refik Anadol a aussi fait cette série sur Boston et d'autres endroits. Là, ce sont les vents qui ont été sur une sonde qui a été collectée au-dessus de l'aéroport d'Istanbul. Et donc, il a finalement récupéré des données sur la direction des vents, sur leur température, sur leur force. Et toutes ces variables de données sont en fait transcrites graphiquement dans une forme ici 3D graphique avec des colorations qui respectent justement ces températures. Et il est vrai que, qu'est-ce qu'il fait là? Il traduit ou il translittère, on a plutôt tendance à parler de translittération, de traduction, c'est-à-dire qu'il va convertir des données dans un autre vocabulaire, cette fois-ci graphique. Et l'intérêt, c'est qu'à travers cette bascule, il nous fait voir quelque chose de ces réalités naturelles et elles ont une autre réalité pour nous, elles ont une prégnance, elles ont une force, elles ont une présence physique qui, quelque part, nous offre à peut-être attacher plus d'importance aussi aux phénomènes naturels de ce type.
Et il y a aussi un aspect politique, parce que, par exemple, cette œuvre là-bas, qui nous fait visualiser les différences, les inégalités de revenus, par des paysages, c'est possible aussi de voir des éléments. Et je pense aussi aux réfugiés, aux migrations.
Absolument, absolument. Oui, ça fait partie des... Alors là, c'est une... Hervig Chirabonne a fait un travail intéressant qui, du premier coup d'œil, nous ferait apercevoir des bâtiments classiques dans le modèle classique de Chicago avec ses grands buildings dressés très haut vers le ciel et donc qui concentrent finalement l'attention sur certaines parties du territoire. En réalité, il ne s'agit pas des bâtiments eux-mêmes, mais effectivement de l'extrusion d'un volume qui correspond un peu au bar chart qu'on peut avoir classiquement et qui s'élève en fonction du niveau de revenu des personnes qui habitent aux endroits concernés. Et donc, quand on s'attache à ça, on se rend compte finalement, de façon très nette, des rapports d'inéquité qu'il y a sur le territoire, des inégalités finalement de vie et d'accès au logement aussi, tout bêtement.
Est-ce que, par rapport au nombre de réfugiés, aux migrations, la visualisation de données peut aider aussi à se dire, en fait, il n'y a pas tant de gens que ça qui arrivent en Europe et on peut gérer ce flux?
Alors, elle peut montrer, effectivement, elle peut montrer les quantités, si je puis dire, si on veut parler de quantité, en tout cas, le nombre de personnes migrant et approcher un peu plus précisément, en tout cas, ces déplacements. Mais elle peut aussi nous montrer, c'est le travail effectivement qui est montré ici, The Refugee Project, qui est en fait une manière de recadrer, en tout cas, de replacer la question des migrations, mais dans l'histoire, sur une période, un intervalle de temps de 40 ans. Et quand on fait ce travail, quand on regarde finalement ces déplacements de personnes sur cette échelle de temps, on se rend compte combien les migrations sont importantes dans la construction des sociétés. On comprend qu'elles ont été poussées par des antagonismes aussi, et des problèmes belliqueux ou guerriers, et que finalement ces gens ne sont pas poussés de leur propre chef, en tout cas ne partent pas de leur propre chef, mais sont poussés réellement par les conditions de vie. On comprend tout un tas d'attendus finalement historiques, politiques, économiques qui font que les migrations ne sont pas forcément choisies par les personnes. Et puis surtout, on comprend aussi que ça fait partie de l'histoire de l'homme, de l'histoire humaine, et que de tout temps, l'homme s'est déplacé, forcé malgré, mais en tout cas, ça fait partie de l'ADN, en tout cas, de la construction des sociétés aujourd'hui.
Est-ce qu'on peut se déplacer pour aller manger là-bas? Donc c'est ce qu'on appelle, alors ça je ne connaissais pas du tout, c'est ce qu'on appelle la data cuisine.
Oui, c'est un projet un peu étonnant par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. C'est un projet qui a été d'abord, enfin qui est d'abord un workshop qui est mené par Maurice Stéphaneur et Suzanne Jachko, qui se sont associés pour l'occasion pour justement mettre en place des ateliers de cuisine. Avec comme souci premier d'essayer de partir de données, alors des données locales, puisque le workshop se déplace un peu partout, s'est déplacé un peu partout dans le monde, et selon l'endroit où le workshop s'installe, eh bien ils se saisissent de données qui sont parfois la pêche locale, parfois le commerce dans telle ou telle région du monde, ou parfois les inégalités aussi de vie, d'accès, la situation d'emploi pour la jeune génération, etc. Et donc ils se saisissent de ces données et ils se disent, voilà, on va essayer de partir des matériaux culinaires dans l'ensemble de leurs propriétés et leur variabilité et leur granularité, c'est-à-dire à la fois la couleur, les textures, les parfums, et puis bien sûr le goût. Et tout ça va constituer la matrice pour essayer de rendre compte, rendre visible et rendre tangible ces données. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, ils le font localement, donc ils travaillent avec les gens et chacun est participant et co-acteur de ce processus. Et évidemment, les gens qui sur place consomment leurs données, si je puis dire, de cette manière, sont parfois saisis des réalités de manière un peu d'une autre manière. En tout cas, ça les touche différemment, quoi.
Alors, si on prend un exemple concret, par exemple, là, on a des tombes.
Oui.
Des tombes en chocolat avec
Absolument.
Différents ingrédients à l'intérieur qui correspondent à des données.
Voilà, il y a une mesure statistique, en tout cas un travail statistique, une étude qui a été faite sur les causes de mortalité en Belgique. Et puis il y a des pourcentages donc, qui sont finalement apparus entre les morts naturelles, les morts qui sont suite de maladies de type cancer ou maladies cardiovasculaires. Et ce qui a été choisi ici, c'est donc d'avoir finalement une représentation qui va montrer la part des pourcentages ici concernés par des petites variations dans le petit cercueil en chocolat que vous voyez apparaître, qui va justement toucher à ces causes, à ces mortalités spécifiques. Donc c'est une sorte de tableau de données finalement culinaires, mais si l'on devait déguster tout ça, on se rendrait compte que finalement, ben voilà, il y a des parfums qui sont plus accentués que d'autres, et tout ça correspond à la moyenne que l'on peut obtenir sur cette question.
Donc ça joue aussi sur le goût finalement.
Complètement.
C'est
complètement.
Incroyable.
Absolument. C'est une façon de sensibiliser le grand public aussi. C'est peut-être un premier point d'accès et pas d'accès à la question de la représentation, parce que ça met en éveil certains sens peut-être plus facilement et quelque part ça nous concerne, ça nous touche plus directement. Mais ce qui intéresse aussi le collectif, c'est d'essayer à travers ça d'avoir aussi d'autres biais, d'autres voies pour inventer d'autres manières de cuisiner. C'est-à-dire c'est aussi comme on a la cuisine moléculaire, tout un tas d'essais et d'expérimentations techniques, on peut aussi avoir d'autres expérimentations qui sont d'ordre créatif et qui vont toucher aux inputs, à la manière dont on peut engager le travail culinaire à partir finalement, non pas d'inspiration ou de voyage ou de littérature comme ça peut se faire, mais voilà, de réalité tangible que le donné nous donne à comprendre.
Et donc, évidemment, par l'arrivée des réseaux sociaux, Facebook, etc., on a une circulation de données, peut-être trop de circulation de données. Ouais. Et vous montrez bien dans un casino, donc vous avez recréé un casino où cette fois on joue avec ces données personnelles.
Exactement, c'est un travail de trois artistes qui ont fait le choix de nous plonger dans une sorte de métaphore de notre relation aux données, en tout cas notre relation personnelle aux outils sur le web, aux GAFA, en tout cas l'ensemble de ces outils réseaux sociaux que Google, Facebook et autres proposent, où évidemment le carburant, la matériau premier de ces outils, ce sont nos données personnelles, donc on a tendance à les céder assez facilement pour participer et profiter de ces services. Mais on en oublie bien souvent aussi la valeur que ces données ont finalement au bout du compte, objectivement. Et donc le projet consiste ici à troquer ces données personnelles contre des jetons pour ensuite aller jouer au casino avec donc ces données personnelles, si on conserve le rapport, en tout cas traduction. Et donc, à travers ce biais-là, on a une sorte de relation un peu réflexive, on se dit, mais après tout, finalement, nos données personnelles ont de la valeur, elles ont beaucoup de valeur, on est prêt à faire beaucoup de choses pour pouvoir obtenir des services, mais on cède facilement nos données personnelles. Et donc, le projet met en exergue ce rapport-là, ce rapport un peu métaphorique et allégorique.
Et peut-être pour finir en bas, il y a une installation qui est, ça s'appelle l'architecture de la radio.
Oui.
Et on voit toutes les ondes, c'est impressionnant. Est-ce que c'est pareil, en fait, on visualise l'impact des ondes sur notre santé?
C'est ça. En fait, Richard Wiesgen a choisi de nous montrer le paysage qu'on a tous les jours face à nous, mais qui est invisible, qui est l'ensemble des champs électromagnétiques. Donc toutes ces ondes radio qui sont émises par les antennes, par nos mobiles, etc. Et qui en fait inondent l'espace public, mais on en oublie véritablement leur présence. Et là, en les matérialisant, ils nous font voir leur réalité tangible. Et ils nous alertent aussi sur finalement le danger potentiel, en tout cas le fait qu'elles soient si nombreuses, doit en tout cas nous inquiéter sur l'impact qu'elles ont sur nous, sur notre santé, possiblement. Ouais.
Et vous avez voulu faire du premier étage un espèce de centre de recherche aussi. Alors c'est moins facile d'accès, je trouve, pour rentrer dans les œuvres.
Oui.
Quel est le but du premier étage?
Le parcours fait qu'on arrive effectivement sur ce premier niveau avec des œuvres qui sont a priori plus facile d'abord, elles sont plus contemplatives, elles attendent pas forcément de nous qu'on interagisse énormément, si ce n'est qu'on puisse comprendre ce qui est proposé et puis apprécier le travail graphique. Et puis quand on monte à l'étage, on a des œuvres ou des projets qui nous demandent en tout cas d'être interacteurs, de plonger à l'intérieur, de comprendre un certain nombre de relations, de faire des choix, d'opérer des choix dans la navigation, jusqu'à vraiment s'impliquer concrètement en tant que pilote, quasiment en tout cas navigateur, dans des environnements qui sont effectivement complexe de premier abord, mais dont on peut espérer trouver énormément d'intérêt et de valeur. C'est un peu le sens du parcours qu'on propose ici, c'est-à-dire que l'abord est facile, la conclusion l'est un peu moins, mais la quantité de richesses à trouver au bout de ces applicatifs sont nombreuses, jusqu'au pop-up doc, qui est en fait une sorte de centre de documentation qui nous montre la quantité de savoir que l'on peut aussi attendre et qui s'est aussi cumulé par le travail d'auteurs importants comme Tufti, comme Lima aussi, d'autres. Quoi.
Oui, le but, c'est de pousser les visiteurs à aller plus loin.
Exactement. Exactement. L'idée, c'est d'avoir un trait d'union par cette exposition, d'entrer peut-être avec un certain nombre d'a priori ou d'idées un peu préconçues en se disant a priori, les données ne sont pas forcément des choses qui m'intéressent, et puis peut-être s'y intéresser davantage par le travers de l'exposition, jusqu'à se dire après tout, ces données me concernent directement et j'ai même une responsabilité personnelle. En tant que citoyen, en tant qu'acteur, en tant que collaborateur en entreprise, ou que sais-je, j'ai aussi une responsabilité sur ce que je fais de mes données, j'entends effectivement accepter de les céder, et puis sur le rôle que je peux aussi avoir dans la compréhension du monde qui m'est donné à travers ces données.
Merci beaucoup, David Bianic.
Merci.
Je comprends pas ce que je vois.
Direction le musée de l'Orangerie maintenant. Les Nymphéas de Monet ont 100 ans cette année et pour l'occasion, le musée a voulu montrer l'influence d'une des œuvres les plus connues au monde sur les peintres abstraits américains des années 70. En quatre salles, on découvre rapidement l'ambiance américaine au sortir de la Deuxième Guerre mondiale et l'apparition de l'école de New York avec Clifford Steele, Barnett Newman, Mark Rothko. Puis l'exposition aborde ceux qu'on a appelés les impressionnistes abstraits, le nom dit tout. Une troisième salle balaye l'action painting avec une vidéo sur Jackson Pollock. Enfin, les panneaux de signalisation nous invitent à redécouvrir les nymphéas dans les deux salles rondes du haut en les comparant avec un tableau vert d'Ellsworth Kelly et certains de ses dessins. Donc on reviendra sur tout ça après. Alors du coup, avant d'en discuter avec vous les filles, moi, mon avis c'est que... Je dois avouer que je suis un peu déçue, un peu frustrée par cette exposition qui donne l'impression d'avoir été un peu bâclée. Y a très peu de contexte et peu d'explications sur les mouvements en eux-mêmes dont on parle. Alors on nous jette des mots, là, impressionnisme abstrait, action painting, abstraction gestuelle, mais on n'en sait pas plus. Il y a un seul tableau pratiquement par artiste, donc c'est difficile je trouve d'avoir une vision d'ensemble des courants artistiques. Heureusement qu'on a certaines œuvres qui sont magnifiques, comme celle de De Kooning, de Sam Francis, Johann Mitchell, Pollock ou encore Clifford Steele. Et alors, dernier aspect, les confrontations donc avec des ponts japonais des saules ploreurs de Monet, qui paraissent un peu fades à côté des œuvres américaines, montrent en effet à quel point il a pu les influencer, mais le propos est quand même un peu maigre. Qu'est-ce que vous en pensez les filles, vous ? Est-ce que vous avez trouvé, comme moi, que ça manquait de fond, Charlotte?
Oui, tout à fait. Je rejoins ton point de vue, Florence. Et j'ajouterai à cela le fait que les salles sont assez inégales. Par exemple, on a celle sur les impressionnistes abstraits qui est vraiment immense. C'est une salle où beaucoup de toiles sont représentées. Et à côté de cela, on a par exemple la salle 3 où on a deux petits films. Et là, c'est une toute petite salle. Il y a vraiment une grosse différence. C'est pareil pour la dernière salle qui se trouve à l'étage. D'ailleurs, ce n'était pas très bien expliqué dans le plan. Enfin, on peut être un peu perdu parce que finalement, la chronologie et les remerciements sont avant la dernière salle. Donc voilà, il y a une sorte de, comment dire, la répartition des différents aspects de l'exposition est assez inégale et ça ne favorise pas, enfin, comme tu l'as dit, le fait qu'il manque des définitions des différents courants artistiques. Voilà, on est un peu perdu finalement, même si on trouve bien entendu de très belles toiles exposées.
Puis comme tu l'as souligné, la chronologie vient à la fin, complètement à la fin, donc ça n'a pas de sens. Galadriel.
Oui, et puis c'est vrai qu'avant de voir l'exposition, déjà le titre m'avait un peu interpellée. Enfin, Le Dernier Monet, les expressionnistes américains. J'avais peur que ce soit un rapprochement un peu simple. Et effectivement, en tout cas, l'exposition ne m'a pas convaincue. Donc, au contraire. Alors, c'est certainement très vrai que ces artistes ont été influencés par Monet, qui d'ailleurs a été plus reconnu plus rapidement aux États-Unis qu'en France. Le fait est que l'exposition, à mon goût, ne l'explique pas assez bien. Voilà, je suis d'accord aussi.
On a un peu l'impression qu'on a plaqué le terme nymphéa. Alors, ce qui permet aussi, on en parlait tout à l'heure avant le début de l'émission, ce qui nous permet aussi de redécouvrir pour nous, Parisiens, les nymphéas, parce qu'on nous oblige à repasser dans ces salles qu'on ne va presque plus voir, puisqu'on n'est plus vraiment des touristes dans Paris. Mais on a un peu l'impression qu'on a plaqué le terme nymphéa pour faire venir des touristes, il y en a énormément. Et que le propos de l'exposition est un peu vide.
Alors moi, je me suis interrogée sur est-ce que ces fameux nymphéas ne seraient pas plus célébrés aux États-Unis, par exemple, que chez nous. J'ai un peu l'impression, bien sûr, en France, Monet, c'est une institution, on est d'accord. Mais c'est tout le Monet, j'ai un peu l'impression. Et qu'on ne va pas forcément s'attacher plus particulièrement à cette œuvre des nymphéas. Alors que j'ai eu l'impression avec l'exposition... Et avec les visiteurs, pratiquement que des touristes, vraiment.
Ouais.
Qu'aux États-Unis, c'est quelque chose, c'était presque une star, cette œuvre particulière de Monet, finalement.
Oui, ce qu'on retient de Monet, c'est vraiment ces nymphéas-là. Enfin, ce cycle de tableaux.
À l'étranger, peut-être, c'est ce que je me suis demandé, justement. Ouais.
Marie-Hélène ?
Moi, comme vous, les filles, j'ai trouvé que les raccourcis paraissaient un peu hâtifs, en fait, entre les différents styles. Oui, on peut tout à fait comprendre quand on se balade dans l'expo, en regardant les tableaux, qu'on sent des différences rien que dans le style, dans la composition. Mais comme vous dites, le manque d'explication fait qu'en fait, on pourrait dire ça de n'importe quel autre artiste, finalement, et on n'a pas de fond sur lequel vraiment se repérer, pas d'encart particulièrement bien expliqué. Pas non plus de... Je sais pas, j'ai pas vu d'audio guide ou quelque chose comme ça, il y en avait peut-être, mais j'ai vu personne en tout cas se munir d'un audio guide, par exemple. Donc je trouve qu'on était un peu jetés dans l'exposition, et en regardant comme ça, moi je me suis dit, en rentrant au début, j'avais un peu l'impression d'une exposition hors sujet. Je m'attendais à voir du Monet, et j'étais perdue au début, et je comprenais pas vraiment là où l'expo allait me mener, en fait.
Bah, c'est vrai qu'au sein même de l'exposition, il y a 3-4 Monet qui se battent en duel.
Mais... Ça ne les met vraiment pas en valeur, c'est pas les plus beaux.
C'est ça, ils ne sont pas mis en valeur par rapport aux œuvres qui, par ailleurs, sont très belles, hein, des œuvres des artistes américains qui sont présentées. Ça ne met pas du tout en valeur les quelques Monet exposées. Et j'aurais aimé, enfin, je m'attendais un peu dans mon idée quand même à une genre de progression pour petit à petit nous mener à la composition des nymphéas qui clôt la visite. Or, pas du tout, en fait.
Non.
Mais sinon, visuellement, c'est vrai que je trouve que visuellement, les œuvres des Américains fonctionnent bien.
Oui.
Elles pètent, elles sont jolies.
Alors
elles sont...
oui, mais j'ai trouvé qu'il y en avait trop pour qu'elles aient vraiment toute leur puissance.
Moi, j'ai trouvé que justement, elles étaient pas trop, elles étaient assez espacées pour qu'on puisse vraiment. Le Rothko, par exemple, il est vraiment seul sur un mur et je trouve que du coup, ça le met bien en valeur.
Puis ce sont des toiles qui sont assez grandes, assez monumentales. Donc, moi, je te rejoins, Florent, je trouve qu'on les... on s'y attarde quand même. À côté de ces toutes petites toiles de Monet, on comprend, en effet, on ne comprend pas trop pourquoi elles sont là. D'autant plus que les liens ne sont pas expliqués. Donc voilà, donc il y a un contraste, c'est sûr. Et effectivement, c'est étonnant parce que le titre de l'exposition, donc c'est bien les nymphéas, mais la peinture de Monet est vraiment celle qui pêche un peu dans cette exposition.
Alors maintenant, du coup, si on fait un petit tour des salles, alors vous avez chacune choisi la salle que vous préfériez. Et donc, Marie-Hélène, toi, c'est la première, donc, qui est intitulée d'ailleurs un peu énigmatiquement Peinture à l'américaine.
Voilà, la peinture à l'américaine, assez vaste. Bon, donc, débrouillez-vous avec ça. Hein. Donc, cette première salle, en fait, elle tente de nous expliquer le contexte de la rencontre entre la peinture américaine et, en fait, l'œuvre de Monet, un peu comment on peut voir un peu de chacun l'un dans l'autre, en fait. Alors, on nous explique qu'il faut d'abord remonter en 1927 à l'inauguration du musée Claude Monet à l'Orangerie. Les 22 panneaux des nymphéas sont exposés, mais à cette époque, cette œuvre ne rencontre pas du tout le succès qu'on lui prête aujourd'hui. C'est même tout l'inverse. Les critiques d'art de l'époque voient dans ses œuvres la plus grave erreur artistique commise par Monet. Ou décrivent des diagrammes polychromes d'une affligeante monotonie. Donc on est quand même loin du Monet que nous, on idéalise en fait, hein, notre Monet, notre fierté. Donc voilà, ce sont des descriptions un peu dures. Et c'est finalement qu'en 1952, à la réouverture des salles du musée qui avaient été endommagées par un obus lors de la libération de Paris, que donc cette fameuse rencontre se produit avec la peinture américaine. Et c'est notamment André Masson qui va sortir les nymphéas de l'oubli et va même surnommer cette œuvre la Sixtine de l'impressionnisme. Donc on a tout d'un coup un passage. Là, je dois dire que dans l'expo, j'aurais bien aimé qu'on s'attarde un peu plus sur cette... ce passage en fait de l'œuvre un peu pas détestée mais vraiment boudée à la Sixtine de l'impressionnisme, c'est quand même du tout au tout quand même, hein.
C'est rigolo comme terme, la Sixtine de l'impressionnisme.
On sent le côté fort. Sacré de l'œuvre qu'il y a derrière. Donc on a du coup cette puissance des nymphéas qui est certainement arrivée trop tôt pour l'époque et cette force dynamique et poétique de l'abstraction américaine des années 50. Donc les deux se rencontrent. Et aux États-Unis, certains artistes américains, nous explique l'expo, comme Jackson Pollock, Mark Rothko, Barnett Newman ou Clifford Steele par exemple, sont plus ou moins inspirés et sensibles aux impressionnistes français. Ce sont donc leurs tableaux qui incitent les critiques à reconsidérer la dernière période de la peinture de Monet. Et dès 1948, le critique Clément Greenberg, donc qui est très connu, mais là encore, je ne sais pas si ça parle à tous les gens qui viennent voir l'exposition.
Ça parle aux connaisseurs.
Voilà, ça parle aux connaisseurs. Mais voilà, sans plus d'explications. Mais donc, ce critique va notamment révéler les affinités entre certains artistes américains comme Pollock ou Mark Tobey et les œuvres de Monet ou de Pissarro. Donc, leur point commun, c'était qu'ils avaient ils exploraient une façon de peindre qui remettait en cause le tableau de Chevalet, ce support traditionnel, en fait, il proposait des compositions décentrées, des surfaces remplies d'éléments répétitifs ou identiques. Donc c'est là que l'exposition aborde la fameuse technique du all-over de Jackson Pollock. On a un tableau et un petit encart qui explique ça. Donc le all-over, pour vous rappeler, c'est une composition uniforme sur toute la surface de la toile qui déborde du cadre, en fait. Donc elle n'a pas véritablement de cadre à proprement parler. Et puisqu'on parle de Pollock, justement, moi, c'est ce que j'ai aimé dans cette salle, parce que j'adore Jackson Pollock personnellement, donc le fait de la voir, ça me réconfortait un peu.
C'était pas une œuvre habituelle.
Oui,
c'est pas justement un dripping classique qu'on voit.
Tu penses à laquelle à The Deep, qui était blanche.
Je pense à celle qui est un peu blanche, effet, avec du marron au milieu.
Celle de 1953, oui. très belle œuvre de Jackson Pollock, et je pense qu'au début, on peut ne pas penser que c'est du Pollock, d'ailleurs, parce que contrairement à celle qui est exposée à côté du pont japonais de Monet, là on reconnaît bien avec le dripping la touche de Jackson
Pollock. Alors je crois que The Deep est au centre Pompidou, hein, si je dis pas de bêtises.
Il me semble, je t'avoue que...
Je crois que si.
Ouais. Certainement.
Si, c'est mes vieux souvenirs. Il ne faudra pas m'en vouloir, mais si vous voulez la revoir après, je crois qu'elle est là.
Parce qu'elle est très belle, hein, vraiment. Et donc, pour revenir à Jackson Pollock, à partir de 1947, son style, je trouve que sa contribution est assez bien exploitée dans l'exposition. L'artiste abandonne en fait toute figuration dans ses toiles. Il se consacre désormais à une nouvelle technique immersive, donc le dripping. Donc, ça consiste à clouer la toile directement au sol ou au mur, et la peinture est ensuite égouttée sur toute sa surface. Donc, ce sont des touches aléatoires, dynamiques. Il y a en fait comme une fusion de motifs qui sont non figuratifs. Et donc Greenberg va faire le lien entre ces tableaux bigarrés et les peintures tardives de Monet, en parlant de poussière vaporeuse, de clair et de sombre confondu. Alors, j'aime beaucoup, moi, Clément Greenberg, et j'aime beaucoup ses écrits, mais encore une fois, placée devant des écrits comme ça, sans explication, je me sentais pas plus avancée sur les liens qu'on pouvait tirer l'un de l'autre, quoi. Donc, même si on comprend en se promenant devant les tableaux qu'on essaye de tirer les liens entre la peinture américaine et celle de Monet, c'est pas forcément évident. Je vais par contre attirer votre attention sur une partie de cette salle qui m'a plu. Donc c'est au fond de la salle, on a ces fameux ponts japonais de Monet, et donc c'était à gauche, on avait deux tableaux de Rothko, un de Jackson Pollock et le fameux pont japonais. Et j'ai trouvé que c'était cette partie-là la plus intéressante de la salle.
Les trois Rothko là.
Voilà, parce qu'en effet,
qui sont très étonnants. Oui. Parce qu'on est habitué aux plages colorées de Rothko. Ouais. Et là, on en a deux qui sont.
Déjà en format assez petit par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Et
ils sont pas du tout dans le même
coloré
style.
Colorés aussi, ouais. Et je trouve que là, en effet, en regardant bien ces tableaux, on peut faire cette gymnastique et regarder, ah oui, en effet, là, je vois la douceur, par exemple, les impressions floues de loin, les formes vaporeuses de Rothko, je les retrouve chez Monet. Et avec Pollock, on a le jeu sur les textures, parce que quand vous vous approchez du pont japonais, vous voyez cette couche de peinture qui ressort, quoi. Et c'est exactement ce qu'on retrouve aussi chez Pollock. Les touches de peinture qui s'accumulent, l'utilisation du trait, les couleurs assez fortes. Donc, on comprend, voilà, avec ce coin d'exposition, les liens qui peuvent se faire entre les deux. Et également avec les toutes dernières œuvres, peut-être un peu surprenantes, en grand format de Louis Morris, est-ce que vous vous souvenez? Ce sont des grandes acryliques sur toile.
Oui, qui sont un peu délavées.
Voilà, exactement. Non, oui,
c'est la couleur.
Ça donne cet aspect, ouais. Exactement. Ce sont en fait. Je trouve que c'était intéressant dans l'exposition parce que cet artiste a développé une technique qui est celle de la stain color, donc qui consiste à exploiter la couleur comme une tache, une teinture. Et en effet, quand on regardait ces toiles-là, on avait vraiment l'impression de voir de la peinture diluée sur des toiles. Donc, à travers ces explorations de techniques, en effet, on peut essayer de voir le lien entre chacun, mais bon, comme on disait, je trouve qu'il faut quand même avoir un certain bagage pour se dire « Ah oui, en effet, je me souviens de ça, je me souviens de ce que Clément Greenberg a dit, donc j'arrive à faire la gymnastique, mais sinon, pour moi, je trouvais que c'était assez difficile d'accès quand même. » Donc voilà pour cette première salle, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais...
Et bien du coup, on passe à l'impressionnisme abstrait. Donc, Charlotte, la deuxième salle.
Voilà.
Qui est en fait composée de multiples recoins parce que chaque salle est quand même à rallonge.
En fait, cette salle, c'est un peu trois salles, pour être précise. Donc, l'impressionnisme, j'imagine que la plupart d'entre vous savez de quoi il s'agit. Donc, rapidement, les impressionnistes du 19e siècle cherchaient à restituer les impressions perçues face à la nature par un jeu sur les nuances, sur l'évolution des couleurs. Ici, il ne s'agit plus de maîtriser les effets optiques de la nature, mais ceux des états spirituels, autrement dit des sentiments. Donc c'est la peintre Hélène de Kooning qui est à l'origine du terme d'impressionnisme abstrait utilisé au sein d'un article du journal Art News en 1955. Car en 1955, justement, un panneau des Nymphéas de Monet fait son entrée au Musée d'art moderne de New York. Et son style inspire alors toute une génération de peintres new-yorkais, donc comme on en a déjà un peu parlé. Donc c'est ceux qu'on qualifie d'expressionnistes abstraits. Et le critique et peintre Louis Finkelstein va dans le même sens qu'Hélène de Kooning et explique que dans ces dernières années, Monet tentait de transcender le réalisme optique des objets, transformant l'espace en essence mystique. Donc là, pour résumer, on a bien ce passage de quelque chose qui est là, matériel, physique, etc., vivant, à un état vraiment spirituel et qui est beaucoup plus fondé sur les sentiments que sur les sensations. Donc dans cette salle, on peut voir des tableaux de Monet placés en parallèle de ceux de ces jeunes peintres américains, mais je vais plutôt m'attarder sur ceux des peintres américains, parce que comme on l'a déjà dit en long, en large et en travers, ceux de Monet ne sont pas ceux qu'on préfère.
Donc, pauvre Monet.
Mais on l'aime beaucoup par ailleurs, il ne faut pas croire. Bon. Vous pourrez notamment voir deux toiles d'Hélène Frankenhaller, notamment Riverhead and Millwook Arcade.
Elle joue un peu aussi, on a l'impression, sur les stain colors.
Exactement, Florence. Exactement. Elle fait justement partie de ce courant de couleur tache, pour traduire grossièrement en français, qui consiste aussi à verser directement donc la peinture sur le support et qui rejoint la technique de Jackson Pollock.
D'ailleurs, il y a une partie qu'on appelle le tachisme dans l'expressionnisme abstrait. Traduit en français, c'est du tachisme.
Ah ben voilà, c'est ravissant, une fois de plus. Et donc, ces œuvres sont intéressantes. Donc là, Riverhead me paraît justement assez emblématique, car son titre signifie littéralement, si vous êtes d'accord avec moi, la rivière de la tête, et donc le courant de pensée, le flux de pensée. Et dès lors, donc voilà, ça n'engage que moi, mais cela peut se présenter comme une sorte de manifeste de ce courant impressionniste abstrait, parce qu'on a le flux des sentiments, des pensées.
Ça voilà. Vient du cerveau.
Oui.
Ou tu pensais plutôt les pensées, ouais, pas tout à fait. Donc c'est pas rationnel, c'est plutôt un peu irrationnel.
Oui,
le flux
voilà.
Des pensées.
Voilà, on est dans plus dans le spirituel, enfin spirituel pas, enfin bon, voilà, on prend inconscient. Le sens qu'on veut, mais c'est dans la tête, quoi, pour résumer. C'est un état intérieur,
ouais, d'accord.
Voilà, on n'imite plus la nature. Donc vous pourrez par ailleurs également voir des toiles de Philip Guston, donc parmi elles Painting, qui offre au spectateur, donc on voit des traits rouges qui se fondent plus ou moins dans des traits roses pastels. Et là, donc je sais pas vous, mais pour ma part, ça m'évoque un coucher de soleil, et j'y vois, donc là on rejoint un peu la nature, et le travail sur les nuances me fait presque penser à Impression soleil levant. Alors c'est peut-être un peu fort, mais parce qu'on a ces couleurs, ce
donc
fondu.
Sa toile un peu rouge, rouge-rose,
voilà,
oui.
Qui part un peu dans les roses. Alors ce serait peut-être l'expression du sentiment laissé face à un tel paysage, je ne sais pas. Là peut-être que je pars un peu loin
donc
encore.
Tu as fait tes propres liens, non mais c'est bien, voilà. Non, mais tout à fait, tu as fait tes propres liens.
Voilà, j'ai fait mes liens.
Le ressenti est primordial dans l'expressionnisme abstrait.
Ah oui, voilà. Bon, bah, on est en plein dedans. On est en plein dedans, mais quoi qu'il en soit, avec cette toile lyrique, comme avec Dial et Untitled, pardon pour l'accent, les deux autres toiles exposées, on est bien loin du premier Philip Guston et de ses toiles qui étaient plutôt réalistes, sociales, pardon. Donc voilà, rien à voir. On nous propose quelque chose de beaucoup plus lyrique. Alors, il y a une autre peintre sur laquelle j'aimerais m'attarder, c'est Joan Mitchell. Donc, trois de ses toiles sont ici exposées, peinture, untitled et sans titre. Donc, c'est des titres justement assez vagues qui peuvent sans doute laisser imaginer ce qu'on veut. Alors, la plupart du temps, on voit des traits assez épais, multicolores, et la peinture est souvent concentrée au cœur de la toile. Donc, chez elle, cependant, la nature joue toujours un rôle majeur. Quand elle compose sans titre en 1964, elle a acquis depuis peu une propriété près de Giverny, donc c'est ici qu'elle peint les couleurs, enfin il me semble, du moins.
Oui, si. Donc les Giverny, oui.
Non, c'est, je voyais un regard de Galadriel, mais je l'ai sans doute mal interprété.
Galadriel, elle rêve un peu. T'inquiète pas.
Donc les couleurs, la manière de peindre, tout lui est inspiré par la nature et elle dit elle-même. Peindre à partir de paysages qu'elle porte en elle et des sensations qu'elle en retient et transforme. Donc la peinture est pour elle une expérience visuelle. La finalité n'est plus le sujet, mais le voir, le fait même de voir et non plus ce qu'on voit, comme le résume Louis Finkelstein, encore lui. Et par là même, elle se rapproche de Monet et des nymphéas, parce que Finkelstein dit encore qu'on a une sensibilité, que la sensibilité visuelle détermine le geste stylistique. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que le vert, probablement donc celui de la nature, est l'une des couleurs qui prédomine dans toutes ses œuvres, ici, enfin celles qui sont exposées dans cette salle. Donc dans cette salle, vous pourrez également voir une très belle toile de Jean-Paul Riopel, elle aussi intitulée sans titre et datée de 1954, qui est une véritable mosaïque de couleurs avec des textures, un jeu de textures intéressant. Puis deux toiles de Sam Francis.
Magnifique, là, c'est la plus grande toile de oui. Sam Francis, avec des petits triangles, on dirait des cerfs volants. Enfin bon, moi je plaque un motif figuratif, alors que c'est abstrait, mais c'est, il est magnifique ce tableau.
Ah oui, ouais. Très lumineux, très coloré. On ne peut pas le manquer en tout cas. Et puis pour finir, il y a aussi White Journey de Mark Tobey, qui peut être considéré comme l'un des précurseurs de l'abstraction américaine.
Alors moi, du coup, j'avais choisi la salle 3, mais en fait, j'ai presque pas tellement envie d'en parler, parce qu'il y a deux vidéos très rapides, donc de 2 minutes, face à face, donc une montrant Jackson Pollock à l'œuvre en train de faire son fameux dripping. Donc si vous ne savez pas ce que c'est donc, il prend une boîte ronde avec de la peinture dedans, une boîte rouge par exemple, et à l'aide de son pinceau, je suis en train de mimer, mais donc personne ne me voit, mais à l'aide de son pinceau, il jette sur la toile de la peinture pour créer aléatoirement des cercles, des traits, et que en fait l'espace de la toile disparaisse complètement, il n'y a plus en fait de perspective, il n'y a plus rien. C'est aussi la technique du all-over dont tu as parlé tout à l'heure, Marie-Hélène. Donc il fait qu'on bourre la toile, on la remplit d'une quantité impressionnante de points et de traits. Et donc le premier film est très court, en fait on n'apprend pas grand chose, enfin, on voit que du coup Jackson Pollock peint sur le sol, peint sur sa toile qui est sur le sol, et voilà.
C'est intéressant de manière documentaire,
oui,
pour comprendre effectivement le basculement qu'il y a eu du tableau de chevalet à cette nouvelle technique qui prend la toile en compte vraiment différemment.
Oui, non, mais c'est bien de voir sa technique, mais c'est quand même une méthode très connue. Moi, je m'attendais, en fait, je pensais que derrière le dripping, il y aurait d'autres éléments. En fait, je pensais pas que la vidéo serait si courte et qu'on aurait que. Mais en effet, et c'est cette technique qui lance ce que Harold Rosenberg, le critique, appelle l'action painting dans son texte The American Action Painters de 52. Et en plus, en parallèle, donc on a une vidéo de Monet. Barbu qui peint sur son chevalet ses nymphéas. Alors, c'est pareil, c'est une vidéo finalement comparée. Remarque, c'est rigolo parce que comparé à Jackson Pollock, c'est une vidéo très statique où on le voit juste peindre. On voit juste sa main bouger et puis son pinceau peindre sur sa toile sur le chevalet face aux nymphéas.
On en reparlera tout à l'heure, mais les nymphéas sont aussi une composition en all-over sans aucune perspective et donc finalement.
Tout à fait. Donc il y a une filiation. tout à fait. Donc voilà. Bah, du coup, Galadriel. Si tu veux nous parler donc de cette dernière salle qui est liée au nymphéa.
Exactement. Alors là, il faut remonter à l'étage avec la salle Ellsworth, Skelly et Monet qui se trouve en fait dans la toute première rotonde qui introduit ensuite les deux rotondes qui présentent les nymphéas de Monet. Donc ici, on est finalement dans la partie permanente hein, des espaces d'exposition. Et c'est vraiment une salle beaucoup plus petite, beaucoup plus réduite que les deux précédentes, avec un seul artiste et que quelques œuvres, donc de Ellsworth Skelly, cet artiste minimaliste américain. Alors pour le coup, on n'est pas dans l'expressionnisme abstrait hein, avec Kelly, puisque lui, il va plutôt s'orienter du côté du minimalisme, donc se concentrer sur une couleur par œuvre, sur une forme très simple, etc. Et c'est en 1952 qu'il découvre les nymphéas de Monet pendant son séjour à Paris. Il a vécu en France plusieurs années après la Seconde Guerre mondiale. Et c'est ce fameux all-over quasiment abstrait des nymphéas qui l'a complètement fasciné. C'est bien qu'il a réussi à s'infiltrer à Giverny, chez les descendants de Monet, pour voir les dernières œuvres qu'ils ont laissées finalement dans son atelier, pour s'inspirer, hein, se laisser pénétrer par la transcendance des lieux, le jardin de Monet, l'étang, etc. Il admire complètement la manière dont Monet, grâce à cette observation de la nature, aboutit à des compositions où la couleur et la lumière règnent en maître, sans narration, sans symbole, hein, tout ça disparaît complètement finalement, bien qu'il parte de motifs figuratifs. Et donc dans cette salle, nous découvrons le tableau vert, justement, une huile sur toile d'un format assez moyen, complètement abstraite. Nous avons un camailleux, finalement, de touches de vert, plus ou moins sombre, plus ou moins lumineuse. Il fait jouer comme ça les différentes nuances. La toile est complètement saturée de couleurs. Il y a une très grande intensité et une très grande profondeur. Et finalement, moi je trouve que rien que pour voir cette œuvre, ça vaut le coup d'aller à l'exposition, parce que aucune reproduction, aucune photographie ne peut nous en donner toute la mesure. On a une telle intensité de couleurs qui est pour le coup, je trouve, très bien mise en valeur dans cette pièce. que rien que pour ça, on peut faire le déplacement.
Notre... Et puis, elle est bien placée, pardon, elle est bien placée aussi quand il n'y a pas des gens devant, elle est quand même dans la perspective en rentrant dans le musée.
Exactement, hein, complètement dans l'axe d'entrée du musée, on peut la voir comme ça en point, point de fuite, justement. Et donc, devant ce tableau, notre regard se plonge dans cette couleur verte, dans cette intensité, comme il se plonge juste ensuite dans les étangs de Monet parsemé de ces nénuphars, donc les deux salles suivantes qui sont complètement immersives, sans point d'échappatoire, sans ligne d'horizon, et le motif disparaît au profit de la couleur et de la lumière. Ce sont donc les deux rotondes qui sont consacrées à cette œuvre de Monet, son œuvre finale, Les Nymphéas, auquel il a travaillé de 1914 à 1926. Il a réalisé 22 panneaux qui correspondent à 8 compositions présentées dans les deux rotondes ovales du musée de l'Orangerie. Et Monet avait souhaité en faire don à l'État français, qui a alors prévu un réaménagement spécial du musée pour accueillir ses œuvres, qui a été inauguré en 1927 par Georges Clemenceau. Et c'est là où je reviens un peu à ce que je disais, c'est qu'on sent vraiment que les Nymphéas, c'est la star du musée. Énormément de visiteurs, énormément de touristes. Salle très bruyante. C'est dommage puisque dans cette fameuse chapelle Sixtine de l'impressionniste, on aimerait bien pouvoir être complètement plongé hein, et en immersion dans ces salles. Mais c'est la rançon du succès.
Même si les gardiens font chute régulièrement.
Les pauvres. C'est difficile. Pas facile pour eux.
Donc l'exposition Nymphéa, l'abstraction américaine et le dernier Monet est à voir jusqu'au 20 août 2018 au musée de l'Orangerie et elle vaut le coup d'œil, hein, ne serait-ce que pour se régaler d'un Rothko, de deux merveilleux Joan Mitchell, de Sam Francis et donc du beau tableau vert d'Ellsworth Kelly. Et c'est l'heure de ta chronique, Marie-Hélène.
Pour ma dernière chronique, je vais vous parler de Willy Ronis et je suis ravie de terminer cette saison avec l'un de mes premiers coups de cœur en photographie. Le pavillon carré de Baudouin dans le 20e arrondissement de Paris rend hommage à l'un des plus grands photographes humanistes qui a su capturer la beauté simple, parfois faite de hasard, du quotidien. À travers près de 200 photos réalisées entre 1926 et 2001, l'œuvre de Willy Ronis nous emmène dans les rues pavées de Paris, des quartiers de Belleville et Ménilmontant jusqu'aux lieux emblématiques de la capitale. Avec poésie, bienveillance et mélancolie, le photographe saisit ses instants de vie, le ballet des passants, l'effervescence de la ville, ses décors et ses paysages. De ces clichés, on retient cette force tranquille, cette beauté ordinaire sublimée par les contrastes, la lumière, l'équilibre et la subtilité de la composition. Un regard d'artiste attentif au monde qui l'entoure, accompagné d'une dose de chance et de hasard selon Willy Ronis. Dans une vidéo où il décrit quelques-unes de ses photos en revenant dans les quartiers qu'il a arpentés tant de fois, on peut l'entendre dire que le hasard est souvent ingrat, mais aussi bienveillant, il vous fait des cadeaux extraordinaires. D'heureuses surprises qu'il découvre donc une fois la pellicule développée. Dans cette magnifique série parisienne au deuxième étage, on a le plaisir de retrouver des photos maintenant bien connues qui vous disent certainement quelque chose, comme celle du petit garçon qui court avec une baguette sous le bras, les amoureux de la Bastille ou les différentes vues des quais de Seine. Un Paris d'autrefois dont la poésie et le charme ont été immortalisés à travers l'objectif d'un passionné. Et pour faire durer le plaisir, l'exposition est installée jusqu'au 29 septembre.
Merci Marie-Hélène. Pour finir, du coup, j'aimerais juste parler d'un petit coup de cœur que j'ai eu pour l'exposition monographique de Loubaïna Haïmid, qui a lieu en ce moment au musée régional d'Occitanie à Sérignan. C'est la première exposition française pour l'artiste de 65 ans, qui est né en 1954 en Tanzanie. Et 6 mois après le début de la préparation de cette exposition, donc l'année dernière, l'artiste a enfin obtenu le prestigieux Turner Prize, la référence en art contemporain, donc 30 ans après le début de sa carrière. Et c'est vraiment une première pour le prix qui est habituellement donné plutôt à des hommes blancs de moins de 50 ans. L'artiste est la première femme noire de cet âge à l'obtenir et c'est une belle consécration pour cette femme qui a passé donc sa vie à militer pour la reconnaissance des artistes noirs en Angleterre, plus particulièrement des femmes, dès les années 80 dans le Black Art Movement. Sa carrière artistique découle complètement de son engagement et donc à Sérignan, c'est possible de voir une dizaine d'œuvres. Elle a choisi un panel pour découvrir, pour que chacun puisse rentrer dans son univers. L'exposition s'appelle Loubaïna Haïmid, Gifts to Kings, et vous pouvez la voir jusqu'au 16 septembre au Musée Régional d'Art Contemporain de Sérignan.
C'est la fin de ce numéro et la fin de cette deuxième saison. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à David Bianic. Merci à vous les filles pour votre engagement cette année.
Merci Florence.
Merci Marie-Hélène, Charlotte et Galadriel. On espère vous retrouver en septembre. En attendant, les 20 ans de Radio Campus Paris débutent début juin sur le 93.9 FM. 20 dates d'émission hors les murs sont prévues dans 20 lieux différents, avec à chaque fois des thèmes croustillants, une soirée cuisine, une soirée consacrée à la création sonore, une soirée qui s'intéressera plus particulièrement à la culture LGBTQ, ou encore une soirée consacrée à la création arabe au sein de l'Institut du Monde Arabe, et encore plein d'autres surprises. Vous pouvez retrouver tout le programme sur radiocampusparis.org. Suivez-nous également sur la page Facebook où tous les événements sont marqués. On vous retrouve avec toute l'équipe le dimanche 24 juin à partir de 19h30 en direct au 6B à Saint-Denis avec deux autres émissions en pleine forme et Fun Sugs. Donc allumez votre poste ou venez carrément sur place. Il y aura une buvette et des ateliers de création sonore toute l'après-midi et l'endroit est vraiment sympa. Donc on vous attend. Bonne soirée sur Radio Campus Paris et restez avec nous surtout. Les programmes continuent.